Qu'est-ce qui fonde la capacité d'un homme à endurer ? À atteindre des sommets à plus de 8000 mètres dans la zone de mort ? À courir des ultra-trails de plusieurs centaines de kilomètres ? À boucler des marathons sous des températures extrêmes ou à des âges avancés ? Guillaume Millet est un physiologiste du sport, chercheur, écrivain et professeur, à l'origine du modèle de la chasse d'eau pour expliquer comment la fatigue nous contraint. Le comprendre, c'est maîtriser les facteurs de la performance pour réussir des ultras, mais aussi pour mieux manager son stress et son énergie au quotidien. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Écoute, je démarre toujours ces podcasts par un petit check-in où tu me partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
L'énergie, l'énergie, il n'y en a pas trop ce matin, elle est un peu au fond des chaussettes, là je suis un peu fatigué, c'est la fin de semaine, j'ai encore une conf à préparer pour demain matin que j'ai pas terminé, donc oui, c'est un petit peu dans le dur, mais c'est pas comme si c'est peut-être pas ce que t'attendais, mais c'est la réalité, donc je t'ai dit ce qu'il en est.
Non, mais
ça va le faire.
Tu fais bien, tu verras peut-être que cette énergie va monter justement au fur et mesure de notre échange. Moi, pour ma part, écoute, je fais mon petit check-in aussi. J'habite à Évian, au bord du lac Léman, et là, je me baigne tous les matins ou presque dans le lac pour démarrer ma journée. Donc, tu vois, ça me donne un bon coup d'adrénaline et de boost pour bien démarrer. Et puis là, il commence à faire froid. Tu vois, tous les sommets sont enneigés. Ils ont prévu de la neige pour demain. Donc, je suis super content. Moi, j'aime bien, tu vois, toutes les saisons et notamment l'hiver. Et donc, je suis content de voir justement j'ai mis des gants ce matin et ces changements environnementaux, cette connexion à la nature aussi. Et puis, j'ai une petite fille qui a 3 ans, je la conduis à l'école tous les matins et elle se réjouit de voir la neige. Donc, je suis porté par cette espèce d'ambiance, on va dire, de Noël qui me ramène un petit peu en enfance.
Je connais Évian parce que j'ai mon frère qui habite là-bas et qui avec sa famille. Et ça nous arrive d'aller faire Noël chez lui là. Et du coup, je connais un peu les, comment vous appelez ça déjà, les bois flottés.
Les bois flottés. Ah, ouais. Ah mais il y a des sculptures incroyables. C'est magnifique.
C'est magnifique, ouais, effectivement.
Non, je me réjouis d'ailleurs qu'ils les mettent et qu'ils les exposent parce que c'est vrai que c'est incroyable ce qu'ils font, franchement. Donc ils assemblent des tas de bois flottés du lac et ils font des sculptures de toutes sortes, des poissons, des animaux, des choses qui existent, des choses qui n'existent pas, des Pères Noël, etc. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Figure-toi que j'ai reçu cette semaine Arnaud Manzanini, je ne sais pas si tu le connais, il a un podcast qui s'appelle Ultra Talk et il a couru la Race Across America et il me racontait que c'est une course qui fait 4900 km à vélo, qu'il a couru en 12 jours, enfin qu'il a pédalé en 12 jours, donc 400 km par jour, 3 heures de sommeil, 16 000 calories brûlées et tu te dis... C'est fou, quoi. Comment le corps est capable de faire ce genre de choses? Alors, je te pose la question. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses?
Alors, comment? En s'entraînant, en étant un petit peu fait pour ça, quand même. Je pense que la Cross America, ça commence à faire partie des épreuves qui sont un petit peu extrêmes. Il n'y en a pas énormément qui sont plus extrêmes que ça. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Ben, il y a déjà la Race Cross America, mais en courant, qui est organisée pas tous les ans, mais qui a été organisée par le passé. Mais quand même, à vélo, il faut quand même pédaler un peu. Donc, le corps humain est fait pour ça. Le corps humain est très endurant, ultra endurant. Et en fait, il suffit entre guillemets de s'entraîner, de se préparer, de bien s'entourer, de pas faire n'importe quoi. Et puis, la preuve est qu'on y arrive. Et moi, je crois que tout le monde. Alors, le reste de Cross America, on est peut-être un peu dans l'extrême. Donc, je suis pas sûr que tout le monde soit capable de le faire. Mais en tout cas, les épreuves d'ultra un petit peu plus classiques, je suis à peu près convaincu que tout le monde est capable de faire ça, à condition de se donner le temps, de se préparer, etc.
Justement, tu dis d'être un petit peu fait pour ça. Alors, ça peut nous amener à la question de la génétique vs l'épigénétique. Tu vois, par exemple, que les Kényans, etc., dominent largement les temps en marathon notamment, et puis sur d'autres types de courses. Et à l'inverse, tu vois des Kylian Jornet qui probablement peut-être ont pas de disposition génétique particulière, mais par contre qui par leur épigénétique ont exprimé des capacités incroyables parce que depuis son plus jeune âge, je crois qu'à 4 ans, il avait déjà fait le Mont Blanc et donc développé comme ça une forme d'adaptabilité de son corps à des à la course en montagne. Et quand il avait 20 ans, c'était peut-être l'équivalent d'un ultra trailer de 45 ans en expérience. Comment est-ce que tu verrais la limite ou la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis, ce qui vient de nos habitudes de vie, de notre environnement, et puis de nos ancêtres et de nos gènes?
Alors bah déjà, je te laisse la responsabilité de tes propos en disant que Kylian Jornet n'a pas de bagage génétique approprié à la course d'endurance, parce que moi je pense exactement l'inverse. Donc effectivement, il a été soumis à un environnement, l'environnement que tu as rappelé, hein, mais on peut pas être à ce niveau-là, on peut pas avoir une VO2 max comme la sienne sans avoir la génétique appropriée. Donc ça c'est mon avis est très certain. Maintenant, pour répondre à ta question, comment je vois les choses, bon, moi personnellement, je les vois sous l'œil un petit peu de la science. Donc, j'ai pas forcément d'avis personnel sur beaucoup de sujets. J'essaie quand même, bon, ça m'arrive parfois, mais j'essaie quand même d'étayer un minimum mes propos. Bon, là, en l'occurrence, je suis pas un spécialiste de génétique, mais quand même, ce qu'on sait, c'est que à peu près pour toutes les qualités physiques et toutes les performances, ben, c'est une combinaison effectivement de génétique et d'entraînement. Alors, plus ou moins en fonction justement des déterminants de la performance. Par exemple, la VO2 max, ça va être énormément génétique, justement. C'est pour ça que pour Jornet, il y a forcément les gènes qui sont là. On peut améliorer la gène, on peut améliorer la VO2 max, mais presque à la marge. Donc c'est vraiment très très dépendant de la génétique. Par contre, l'endurance, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus, en s'entraînant, améliorer cette capacité à durer dans le temps, et notamment quand on fait de l'ultra. Moi, j'ai coutume de dire que quand on n'a pas eu de chance à la loterie, et notamment sur la puissance du moteur, sur la VO2 max, alors il est bon d'aller sur les formats ultra, parce que là, l'énergie qu'on met dans son entraînement permet d'être un peu plus performant, même si on n'a pas une VO2 max exceptionnelle, parce que la VO2 max reste importante, mais prend de moins en moins d'importance lorsque la distance augmente.
Parce que les facteurs limitants sur l'ultra seront plutôt mentaux que physiologiques.
Non, mais même physiologique. Alors, l'aspect mental, c'est certain. Donc, ça, effectivement, on peut aussi le travailler. Même si là encore, je pense qu'il y a une partie génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement, mentalement résistants, résilients, etc. Et puis, mais il y a aussi, comme pour le physique, tout un pan de la préparation mentale qui permet d'améliorer son endurance mentale, sa résistance mentale, on pourrait dire. Mais là, je parlais même d'endurance au sens physiologique du terme. Et en particulier, quand on parle de course à pied, bah, cette capacité à avoir des fibres musculaires solides qui permettent d'enchaîner les descentes alors, je parle, moi, j'ai surtout travaillé sur l'ultra trail, mais et c'est vrai que c'est surtout valable en course à pied, mais après il y a d'autres paramètres de l'endurance qui peuvent se travailler aussi à l'entraînement, la capacité à utiliser des lipides à l'effort, etc. Et puis là encore, il y a aussi des aspects qui sont un peu plus innés. Par exemple, il y a des gens sur les aspects nutritionnels qui sont capables de se nourrir pendant des heures et des heures sans avoir de problèmes digestifs, donc ils sont un petit peu solides au niveau gastro-intestinal, et ça c'est vraiment important en ultra. Et d'autres qui ont au contraire des difficultés. Et voilà, ça c'est plutôt un paramètre qui est, alors là pour le coup c'est un petit peu mon ressenti, hein, c'est pas tellement étayé scientifiquement, mais je pense qu'il est là plus du côté de la génétique justement. On est un peu solide, on a la bonnes aptitudes à digérer. Il y a des gens qui sont des véritables concasseurs, qui peuvent manger à peu près n'importe quoi, une fondue savoyarde, et puis ils repartent en courant derrière. Et puis d'autres, dès qu'ils font une toute petite erreur, même sans faire d'erreur nutritionnelle, ils auront des problèmes de vomissement, de diarrhée, etc. Voilà. Donc voilà, en fonction de quels paramètres on choisit, pour revenir à la question initiale, en fonction de quels paramètres on parle plutôt, dont on parle, on va avoir une dominance, une prééminence de la génétique, de l'inné ou de l'acquis. Mais dans tous les cas, les deux composantes sont présentes à mon avis.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Et tu as évoqué aussi la possibilité que justement même les aspects mentaux étaient potentiellement en partie, en tout cas prédestinés par cette génétique. Et pour autant, moi j'ai la sensation que plus tu fais des choses difficiles, plus ça devient facile. Tu vois, c'est un petit peu cette idée choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Et j'ai l'impression que il y a quand même une forme peut-être de nivellement par le bas, ou en tout cas de baseline dans nos sociétés occidentales, qui est de plus en plus basse. Et donc, on a l'impression qu'on peut de moins en moins en faire. Et donc, ça nous donne l'impression d'ailleurs que l'ultra, le nom l'indique bien, est quelque chose de stratosphérique et accessible seulement à une élite. Alors que peut-être que il y a de ça 50 ou 100 ans, tout le monde aurait été capable de le faire, ou presque, parce que les gens étaient naturellement plus robustes, et pas tant parce qu'ils avaient une meilleure génétique, mais simplement parce qu'ils avaient plus l'habitude d'entraîner cette ténacité, cette résilience. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bon, ça c'est des choses dont je parle régulièrement dans les podcasts. Mais quand je disais que les gens étaient, il y avait aussi une partie génétique. C'est j'ai aussi pris la peine de dire que ben, justement la préparation mentale, c'est des choses qu'on pouvait entraîner. Alors soit l'entraîner effectivement, j'ai envie de dire par la force des choses, soit faire un programme d'entraînement de préparation mentale pour l'entraîner. Quand je veux dire par la force des choses, je veux dire effectivement quand on est un migrant qui a traversé toutes les épreuves pour venir ici, ben voilà, ça c'est le, on peut se dire que ces gens-là, ils ont effectivement une force mentale incroyable pour avoir survécu à toutes ces épreuves que l'on connaît, hein. Voilà, donc ça c'est évidemment pas eux qu'on choisit de, enfin ils ont choisi de venir chez nous, mais ils ont pas choisi de passer par toutes ces épreuves terribles que l'on peut lire dans certains livres. Donc c'est vrai que quand on a parlé de ça, après c'est difficile de parler de sport, mais bon, on est aussi là pour parler sport quand même. Mais donc du coup, après effectivement, il faut travailler cet aspect mental. Alors après la prépa mentale, alors moi je suis pas un spécialiste déjà de préparation mentale, moi je suis physiologiste de l'exercice, mais la préparation mentale, c'est pas non plus seulement travailler sur la capacité à résister à la douleur, etc. Il y a aussi quand même tout un pan de la préparation mentale qui est travailler sur le stress, travailler sur les habiletés motrices, le relâchement, etc. Ceci étant dit, pour revenir quand même à cette histoire de est-ce que c'est inné, alors là encore, c'est peut-être, si on parle que de mental, je vais sans doute dire un peu des généralités, parce que encore une fois, c'est pas tout à fait mon métier, même si ça me passionne, comme beaucoup de gens qui font de l'ultra, forcément on est conscient de l'importance du mental. Mais je me souviens que quand j'étais au sport études, alors c'est une anecdote, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, n'empêche, quand j'étais au sport études de ski de fond, il y avait un de mes congénères, un de mes collègues, qui pour le coup a fait une carrière en équipe de France, etc., ce qui n'était pas mon cas. Et je pense que la différence entre nous deux, c'était justement cette capacité à se faire mal. C'était vraiment impressionnant, donc je peux même donner son nom, hein. C'est plutôt positif ce que je vais dire sur lui. Alors, il n'est pas connu du grand public, parce que comme pourraient l'être maintenant les biathlètes, déjà c'est du ski de fond, pas du biathlon, et donc il s'appelait Philippe Sanchez. Donc il a à peu près mon âge, une cinquantaine d'années, 55 ans maintenant, et il était plutôt un peu coolos à l'entraînement, mais il a fait des performances incroyables parce que, alors, pas au niveau international, parce qu'en plus à l'époque il est tombé sur aucun Français ne faisait des performances internationales, plutôt pour des raisons à la fois de sûrement de structuration de la fédération, et puis aussi quand même un petit peu de dopage des autres nations, même si c'est toujours facile de se réfugier derrière ça, mais je pense que pour le coup c'était un peu vrai. En tout cas, il faisait vraiment partie des meilleurs Français, il était champion de France plusieurs fois, et lui, sa force, c'était vraiment le mental. Et il n'avait jamais travaillé à l'entraînement, c'était vraiment que naturellement il était capable de se mettre dans des états de fatigue et de souffrance impressionnants. Et pour l'avoir quand même côtoyé pas mal, c'était pas du cinéma, quoi. Il arrivait vraiment, vraiment, vraiment dans le dur. Mais voilà, donc lui, je pense qu'il avait ça en lui, il avait cette capacité à se faire mal, et les athlètes de haut niveau, en tout cas dans certains sports énergétiques, je pense ça fait clairement partie des facteurs de la performance qui peuvent se travailler, mais je pense qu'ils ont ça en eux pour la plupart.
Toi, pour autant, t'as quand même un mental qui doit pas être si mauvais que ça, parce que t'as quand même fait le Tour des Géants qui fait 335 km, 24 000 mètres de dénivelé. D'ailleurs, qu'est-ce qui te donne envie de courir, d'explorer les limites de tes limites physiques, tes limites mentales, de, parce que moi je vois ça vraiment comme une exploration, un voyage intérieur autant qu'un voyage physique. Qu'est-ce qui t'a porté vers ces épreuves qui sont quand même extrêmes?
Alors, plusieurs choses, je pense. La première, c'est que j'étais quand même pour le coup fait un peu pour ça. Moi, je suis quelqu'un, effectivement, naturellement, on en revient toujours à génétique de très endurant, avec d'assez bonnes qualités aérobie au départ. Et peut-être même pour qui était suffisante pour faire une carrière meilleure que ce que j'ai fait, enfin une carrière. Je ne considère pas que j'ai fait une carrière d'ailleurs, mais en tout cas, peut-être ce qui m'a manqué justement, c'était justement le mental. J'en sais rien. C'est en tout cas c'est pas du tout impossible. Quoi qu'il en soit, donc j'étais fait un peu pour ça. Donc du coup, on est attiré un peu naturellement vers les activités qui nous correspondent. Et comme j'ai eu quelques résultats, notamment en ultra, ben voilà, ça te donne envie d'en faire plus. Et de, il y avait donc cet aspect quand même performance. Moi, je cache pas qu'il y a eu ça qui a joué pendant longtemps, hein. Alors, ça veut pas dire que c'était uniquement la performance et que je n'aimais pas courir et que la preuve, c'est que j'ai pas vraiment arrêté de courir et que j'aime toujours ça. Donc, il y a aussi l'aspect quand même, tout ce qu'on sait sur les bienfaits, notamment mentaux du sport et notamment du sport d'endurance. Donc, avec cette production d'endorphines, de dopamine, etc. Donc, voilà, je suis un peu, alors, je suis pas addict, hein. J'ai été capable de, souvent dans ma vie d'arrêter du jour au lendemain pratiquement de m'entraîner pour faire autre chose pendant ma thèse ou etc. sans que ça me manque. Donc je pense pas que je sois vraiment addict à l'endurance, mais il n'empêche que c'est aussi un aspect qui compte. Et puis à un moment donné, quand j'ai fait de l'ultra, notamment quand je faisais l'UTMB ou le Tour des Géants, c'était aussi ça, comment dirais-je, ça cadrait un petit peu ma vie. C'est-à-dire que c'était il y avait cette espèce d'organisation où j'essayais de tout mettre en place pour pouvoir à la fois faire mon boulot qui est toujours et de plus en plus prenant, passer du temps en famille et m'entraîner. Donc c'était voilà, moi j'aimais et j'aime toujours comment dirais-je, cette nécessité d'organiser les choses et de planifier les choses. Et voilà, je pense que je suis un peu comme ça, et c'est ça qui me correspond. Et donc le fait de faire de l'ultra, ça, voilà, il fallait passer les heures d'entraînement, les objectifs, etc. Et ça me plaisait aussi d'organiser ma vie. Alors c'était pas autour de l'ultra justement, c'était autour de ces trois composantes que j'ai citées, la famille, le boulot et l'ultra, et d'avoir des semaines bien remplies et de mettre de l'énergie là-dedans. Oui, c'est ça qui me plaisait. Donc voilà, il y a un peu tout ça. J'aime aussi être en nature, mais je suis pas un passionné de nature. C'est-à-dire qu'aller randonner par exemple simplement avec un sac au dos, j'ai jamais trop fait ça. Ça me plaît d'être en montagne, ça me plaît d'être sur les chemins, mais s'il n'y a pas la composante énergétique, course ou rando-course, je trouve ça un peu moins bien. C'est bien, mais je préfère le faire en courant ou en faisant de la rando-course qu'en marchant. Donc voilà, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de faire de l'ultra.
T'as cité la production d'endorphines. Est-ce que t'as la sensation que le fait d'avoir réalisé des exploits quand même gagnés dans la douleur t'aide d'une certaine façon à relativiser ce qu'est un stress réel et peut-être à te reconnecter un petit peu aux choses essentielles de ta vie?
Non, je dirais pas ça. Pour être passé par des vraies épreuves un peu plus récemment, oui, ça t'aide à te reconnecter sur ce qui est essentiel dans ta vie. Ce qui n'est pas le cas de la course, parce que de la course, tu l'as choisi. Donc effectivement, même si tu te mets un peu de stress, etc., finalement, c'est toi qui as choisi de faire ça. La douleur, c'est toi qui l'as choisi. Par contre, là où ça m'a aidé, c'est dans les périodes un peu plus difficile, mais pas au sens plutôt difficile dans le sens excès de travail ou les choses où il faut vraiment se mettre dans le dur, où tu te dis putain, comment je vais faire pour arriver à tout boucler cette semaine, etc. Oui, ça, là pour le coup, ça m'a servi en me disant bon, finalement ça, effectivement tu as eu en ultra des coups de moins bien, ça passe parfois, donc voilà, serre un peu les dents et ça va passer. Donc ça, plutôt pour ça, tu vois, c'est-à-dire ouais, c'est pas linéaire, t'as forcément cette expérience de l'ultra où tu sais que même si c'est pour le coup physique essentiellement, mais tu sais qu'il va y avoir des moments meilleurs alors que tu continues pourtant à courir, donc tu pourrais t'attendre à ce que la fatigue continue à apparaître, ce qui est le cas d'une certaine façon, mais quand même avec des ups and downs. Et voilà, donc ces coudes moins bien, surmonter les courbes moins bien, ça c'est quand même une leçon de l'ultra qui peut servir au quotidien. Donc c'est plutôt par rapport à ça que cette histoire de se reconnecter sur les choses essentielles, ça reste quand même du superflu. Même si peut-être que quand je courais, j'avais l'impression qu'effectivement je jouais. Alors je jouais pas ma vie, il faut pas exagérer non plus. J'étais pas, mais je sans doute que je me mettais un peu de pression. Et maintenant avec le recul, je me dis c'était vraiment stupide dès que j'aurais dû en profiter un petit peu plus, même si j'en ai bien profité quand même. Voilà, du coup, non, non, c'est les choses essentielles, c'est pas l'ultra qui t'apprend ça. Enfin, je comprends.
Ça y est, t'as lâché le mot de la fatigue qui est quand même au cœur de ton travail. Justement, quand on s'intéresse à l'endurance, dans l'endurance, il y a le mot endurer. Et donc, tu t'es intéressé un petit peu à tous les facteurs physiologiques qui pouvaient mener à la fin de la performance. Qu'est-ce qui empêche le corps d'aller plus loin? T'as étudié l'âge, la chaleur, l'altitude, la distance, la vitesse. Plus ou moins tous les facteurs physiologiques potentiels et pour en déduire en réalité que ce qui limite la performance est peut-être toujours le mental ou presque ce qui t'a permis de créer le fameux modèle de la chasse d'eau dont t'aimes pas trop la version française parce qu'elle est probablement un petit peu moins glamour. Peut-être que tu pourrais déjà commencer par exprimer ce que c'est et puis j'ai plein de questions après dessus.
Oui, alors le modèle de la chasse d'eau, si je l'ai créé, c'est un peu parce que c'était drôle, donc pas de souci pour utiliser le modèle français, mais c'est vrai que la version française, mais c'est vrai que Flash Model, ça fait plus classe. Non, non, c'est le modèle de la chasse d'eau et encore une fois, c'était un petit peu pour rire quand même, mais pas que. C'était un peu les deux. Il y a, j'espère, quand même un vrai intérêt. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle de la chasse d'eau? Alors, quand tu dis pour en conclure que finalement c'était que le mental, c'est pas vrai. C'est-à-dire j'ai pas dit ça. C'est au final c'est effectivement ça qui va nous guider de façon ultime, mais il est quand même bien dépendant des autres facteurs de la performance et notamment des aspects physiologiques. Donc ce que j'ai voulu créer ce modèle de la chasse d'eau, c'était justement parce que j'avais travaillé essentiellement et je continue à travailler essentiellement sur les aspects physiologiques et notamment la fatigue. On appelle la fatigue aiguë ou la fatigue neuromusculaire. Donc on a fait pas mal d'études en laboratoire pendant, on a fait courir les gens pendant 24 heures sur tapis roulant. On est allé 3 fois sur l'UTMB ou sur d'autres courses où on a étudié effectivement les ultras. Donc on a voilà étudié les conséquences physiologiques et sur le corps humain d'une façon générale de ce type d'effort un petit peu extrême. Mais ça peut pas effectivement expliquer 100% de la performance. La composante mentale, psychologique, elle est vraiment importante. Et c'est pour ça que sans être, et je le répète, sans être un expert justement de ces aspects psychologiques, j'ai éprouvé la nécessité de proposer un modèle qui intègre tous ces aspects-là. Donc effectivement, le modèle qui me semblait le mieux correspondre pour expliquer ce qui se passait quand on courait. Alors moi au départ c'est vrai que c'était appliqué essentiellement à l'ultra, mais c'est valable pour tous les sports d'endurance, même pour l'endurance un peu plus courte, un peu plus classique. Donc ce modèle il se veut holistique, hein, il se veut intégratif. Donc l'idée de la chasse d'eau, pourquoi? Parce que effectivement je considère que dans la chasse d'eau, en fait, ce qui est le plus important, c'est la cuve où l'eau va se remplir pour pouvoir après tirer la chasse. Et le niveau d'eau dans la cuve correspondrait à la perception de l'effort d'un athlète qui se met à courir. Et donc l'idée, c'est de se dire bon, déjà, et plus la perception de l'effort est élevée, et on a bien le sentiment que moins bien c'est pour la performance, c'est-à-dire qu'on va augmenter ce niveau d'eau jusqu'à un moment donné où on va, et c'est pour ça d'ailleurs, c'était le principal intérêt de la chasse d'eau, où on a un capteur. Dans une chasse d'eau, c'est la boule qui va couper l'arrivée d'eau, et pour un coureur, ça va être son cerveau. Jusqu'à un moment donné, on va dire stop. Donc on arrête l'arrivée d'eau, et pour le coureur, ça veut dire on arrête de courir, ou en tout cas on réduit fortement l'allure. Et donc l'intérêt de la chasse d'eau, c'est de se dire comment je fais pour qu'il y ait le moins d'eau possible dans la chasse d'eau. Donc évidemment, c'est-à-dire retarder le moment où le capteur, où le cerveau va dire stop. Donc évidemment, l'aspect principal, ça va être de limiter le débit de remplissage. Et c'est pour ça que là, pour le coup, l'entraînement, la nutrition, c'est quand même ça qui va jouer essentiellement. Si je suis mal entraîné et que je cours à une certaine vitesse, ça va se remplir beaucoup plus vite que si je cours à cette même vitesse et que je suis bien entraîné. Même chose si je prends les apports énergétiques adéquats versus je m'alimente pas. Mais il y a bien d'autres aspects qui font l'intérêt du modèle. C'est que, par exemple, on voit bien ici que on peut potentiellement partir avec une cuve qui est pas vide. Et donc, si je pars avec une cuve qui est pas vide, je vais arriver au maxi plus rapidement. Et c'est typiquement le cas quand on n'a pas assez dormi, quand on est anxieux, quand on est stressé avant une course, quand on a eu une charge cognitive, une charge mentale avant la course, ça aussi, ça va élever le niveau d'eau avant même de commencer la course. Donc le modèle permet aussi de prendre en compte ce type de données scientifiques. Et puis quand j'ai dit qu'il y avait un capteur, donc la boule de la chasse d'eau. Alors dans une chasse d'eau en général, je suis pas allé vérifier, mais ça peut pas bouger. C'est-à-dire qu'on peut pas dire je veux que ma chasse d'eau elle se remplisse plus ou moins. C'est-à-dire que quand on arrive proche du bord, ça s'arrête. Et dans le sport c'est pas pareil. On a parlé de la préparation mentale. Quand on disait on est résilient, on est dur au mal, etc., c'est justement diminuer ce que j'ai appelé dans le modèle de la chasse d'eau la réserve de sécurité. C'est-à-dire je vais aller jusqu'à me rapprocher le plus possible du moment où ça va déborder. Donc en ce faisant, je vais évidemment mettre un petit peu plus en danger ma santé, mais en termes de performance, c'est positif. Et voilà. Et puis le quatrième, donc la réserve de sécurité, c'est un autre composant du modèle. Et puis quand même, c'est une chasse d'eau, donc évidemment, il faut une valve de vidange pour pouvoir tirer la chasse. Et là, c'est ce qui se passe quand on se repose ou quand on ou dans d'autres conditions. Mais donc voilà un peu le modèle. Donc en résumé, c'est voilà le niveau d'eau qui correspond à ce qu'on appelle RPE dans les articles scientifiques, la perception de l'effort. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette perception de l'effort, elle reste le plus bas possible. Et donc, l'entraînement, la technique de course peut aussi permettre de minimiser cette augmentation, la nutrition. Donc, tous les facteurs de la performance peuvent être expliqués par ce modèle.
Donc concrètement, tu veux réaliser un exploit sportif. La première chose déjà, c'est d'essayer de partir avec une cuve vide, donc potentiellement d'avoir bien dormi, d'être détendu, de pas avoir trop de stress dans ta vie de façon générale, peut-être d'être soutenu par ta famille, d'avoir un discours intérieur, de savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Ensuite, tu peux jouer sur le débit de rem... ouais, pardon.
Pour intérieur, ça va plutôt être le débit de remplissage.
Le
Ça va
débit de remplissage. Ok.
être pendant la course. Partir avec une chasse d'eau vide, c'est tout ce qui se passe en amont de la course.
Ouais.
Donc bien dormir, nous on a par exemple travaillé sur l'extension de sommeil. Alors pas dans le cadre de l'ultra, mais ça s'applique tout à fait. Ou comme on est tous, alors est-ce que c'est une vraie extension de sommeil ou est-ce que c'est combler un déficit chronique de sommeil que l'on a tous plus ou moins? On n'est pas trop sûr, mais ça revient au même. Finalement, c'est pas ça le plus important. Et on a pu montrer que quand on dormait 1 heure de plus chaque nuit, c'est-à-dire quand on se couchait 2 heures de plus avant une privation de sommeil pendant 6 jours. Donc en résumé, l'étude c'était on a une privation de sommeil pendant le week-end et la semaine d'avant, pendant les 6 jours d'avant, on demandait à des cobayes de se mettre au lit à 9 heures plutôt que d'habitude à 11 heures. On vérifiait qu'ils dormaient plus et effectivement, ils dormaient plus 1h10 de nuit en plus. Donc ils avaient une extension de sommeil par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et on a regardé si ça permettait de préserver, de limiter les effets délétères de la privation de sommeil, à la fois sur les aspects cognitifs et sur les aspects physiques. Et on a montré que c'était le cas. Donc, y compris sur le physique. Sur les aspects cognitifs, ça avait été montré avant nous, mais sur les aspects performance physique, à ma connaissance, on a été les premiers à montrer ça directement en laboratoire. Et voilà, donc quand tu dis bien dormir, ça peut aller jusqu'à, si on veut vraiment que la cuve, elle soit vraiment vide, 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 ça peut aller jusqu'à faire de l'extension de sommeil.
Ouais, donc en fait, on serait presque capable de stocker du sommeil de réserve pour le moment où on va en manquer, c'est-à-dire la course. Et comment est-ce que tu arrives à les faire dormir 2 heures plus tôt? Parce que il y a quand même tout leur rythme circadien, etc., qui sont calés sur des horaires habituels pour eux. Alors soit ils sont de base, de façon générale, en déficit de sommeil, et en fait ils se couchent beaucoup plus trop tard par rapport à leurs premiers signaux de besoin de dormir. Mais si c'est pas le cas et qu'ils ont déjà potentiellement un sommeil qui est équilibré vis-à-vis de leur vie, moi je me couche tôt, tu vois, je m'endors vers 22h. Mais si je me couchais à 20h par exemple, j'arriverais pas à m'endormir. Enfin, je pense que j'arriverais pas à m'endormir.
Alors, tu n'arriverais pas à t'endormir à 20h, mais c'était le cas de nos cobayes, c'est-à-dire qu'ils se sont couchés, ils ont eu 2 heures au lit en plus, mais ils ont dormi 1 heure en plus seulement.
OK.
Donc, si tu te couchais à 20h, peut-être que tu dormirais pas effectivement à 20h05, mais tu dormirais peut-être à 21h. Et même si tu dors, alors après, je connais pas ta vie, donc peut-être que tu as assez de sommeil. Il se trouve que effectivement, la majorité des gens sont en déficit chronique de sommeil, peut-être de plus en plus. Et là encore, on avait choisi des gens qui n'avaient pas un gros delta entre le nombre d'heures de sommeil en semaine et le week-end. Ce qui n'est pas du tout mon cas, par exemple, ce qui est pas très sain, mais c'est comme ça. Donc effectivement, ils n'avaient pas tellement de déficit chronique de sommeil, mais on peut pas exclure le fait qu'ils en aient eu quand même un petit peu. Donc au final, ça change rien, parce que c'était la comparaison par rapport à la condition contrôle où ils avaient moins de sommeil.
Ok, bon, hyper intéressant. Donc ça te permet de partir avec la cuve vide. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le débit de remplissage. Donc ici, c'est tous les facteurs physiologiques, donc tout l'entraînement qu'il y a pu y avoir en amont. Tu l'as dit, l'alimentation pendant l'épreuve. Et puis le discours mental, le discours intérieur. D'ailleurs, en parlant de l'alimentation, t'as cité tout à l'heure dans les ultras la capacité à la lipolyse, la capacité à utiliser des lipides comme source énergétique. T'as un avis là-dessus sur cet éternel débat, on va dire, entre le fait d'avoir une adaptation plutôt low carb et puis des marques comme Olifat qui te proposent justement des barres alimentaires à l'effort qui sont très riches en lipides, ou à l'inverse plutôt une approche glucidique qui a été en tout cas ce qui a été habituel en fait pendant des tas d'années.
Alors, je connais pas très bien ces barres lipidiques là. J'ai pas quand même le sentiment que ce soit quelque chose de très très développé en ultra. Donc, il faille s'entraîner pour augmenter la lipolyse. Moi, je reste malgré tout persuadé. Alors, je te parle de l'ultra, hein. Si on parle de distance plus courte, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut au contraire être effectivement capable d'assimiler le plus de glucides possible à l'effort. Si on parle d'effort de 1h30 à 2h, c'est plutôt ça qui va jouer. Mais sur l'ultra, bah, le fait de consommer plus de graisse à l'effort, ça va permettre effectivement de pouvoir minimiser un petit peu les apports et donc limiter potentiellement les troubles gastro-intestinaux. Maintenant que ces barres permettent de changer un petit peu le goût, et puis alors ça paraît quand même bizarre de dire qu'elles soient mieux digérées, alors qu'on sait que les lipides, c'est ce qu'il y a de plus dur à digérer. Mais comme j'ai pas trop de données de recul sur l'utilisation de ces barres, je peux pas t'en dire beaucoup plus. Je serais un petit peu surpris, mais bon, après, si ça existe, peut-être que ça fonctionne, ou alors ça peut être que de la com, j'en sais rien, faut se méfier, mais ouais, donc pas trop de recul sur ces barres-là. Donc moi, je resterai sur quand même s'entraîner à développer la lipolyse pour l'ultra, et puis s'entraîner à consommer beaucoup de glucides sur le cours.
Ok, mais donc du coup, t'entraînes la lipolyse sur l'ultra, ce qui te permet de taper dans tes graisses, mais pour autant, dans ton alimentation pendant l'ultra, tu manges plutôt des barres glucidiques.
Ouais, sauf si tu as fait un régime cétogénique, mais ça c'est autre chose.
Ok. Et donc le dernier élément, c'est la zone de réserve. Et en fait, pour l'illustrer, c'est que je me souviens, j'avais lu le livre Endurance d'Alex.
Hutchinson.
Ouais. Et donc j'avais vu, il a fait plein d'expériences et il a montré que ben des sportifs que tu poussais jusqu'à la limite, au point, jusqu'à l'épuisement, étaient capables malgré tout de taper un sprint pendant potentiellement de 10 secondes ou 30 secondes dans certaines conditions. Et donc on peut l'illustrer par exemple à un gars qui, je sais pas toi par exemple, qui arrive à la fin de ton tour des géants, qui est crevé, épuisé, qui en peut plus. Puis là, si t'as un ours qui arrive et qui veut te bouffer, et ben t'es de nouveau capable de courir et de partir pour sauver ta vie. Et donc c'est ça, cette fameuse zone de réserve. Et donc là, le fait de pouvoir aller plus loin dans cette zone de réserve, donc de l'exploiter, de la diminuer en réalité, ça vient comment? C'est par un entraînement mental? C'est à force de montrer à ton corps que t'es capable d'y aller, qu'en réalité t'as survécu?
Alors, bon, déjà, Alex, il n'a pas fait d'études, lui, il a reporté les études, C'est un très très bon, sans doute un des meilleurs journalistes en termes de vulgarisation des connaissances, mais lui, c'est pas un scientifique, hein, c'est pas lui qui fait les études, donc il reporte les études. Après, la métaphore de l'ours, pour le coup, c'est moi, c'est la mienne, c'est pas la sienne. Effectivement, cette histoire de survivre, etc., ça, j'utilise souvent cette métaphore de l'ours pour te dire, effectivement, t'arrives en ultra, tu peux jurer au grand Dieu que t'es fatigué, que tu peux plus avancer, si même t'as un gars qui te double et que tu passes deuxième, tu vas pas y arriver si vraiment t'as fait tout ce qu'il fallait pendant la course, si t'étais très bon en prépa mentale, etc. Donc on peut dire, ouais, j'ai vraiment tout optimisé, donc j'ai cette réserve de sécurité qui est déjà très mince. Maintenant, si avant de l'ours, peut-être il peut y avoir la question de la récompense. Si effectivement tu te dis, bah, au-delà de gagner la course, peut-être je t'offre 10 millions de dollars si tu arrives à suivre le gars. Bon, peut-être que ta réserve, tu peux encore la diminuer, mais au final, le déterminant ultime, c'est effectivement de sauver ta peau. Donc, si après ta vie qui est en jeu, comme l'ours qui te court après, il y a des chances que tu effectivement diminues encore cette réserve de sécurité. Donc, comment ça s'explique? Ça s'explique ça s'explique difficilement en fait. Évidemment, c'est un peu compliqué à étudier ça de mettre en place une étude scientifique où on va aller regarder si tu mets un dossier au comité d'éthique en disant on va lâcher des ours derrière les coureurs. Je suis pas sûr qu'il y ait un enthousiasme délirant de la part des personnes qui vont décider si oui ou non tu peux faire cette étude. Blague à part, c'est sûrement un stress que tu as jamais connu qui va. Vous avez parlé de cortisol, tu me disais avec Olivier, qui va permettre de lâcher les derniers chevaux, production d'adrénaline, noradrénaline, et qui va augmenter encore ton rythme cardiaque et donc ton débit et donc ce déficit nerveux que tu peux encore avoir, et notamment quand tu es fatigué. On a cette inhibition qui peut être vue comme une façon de se protéger. Ben, tout ça va être levé aussi devant cet état de stress ultime. Voilà, donc là, il n'y a plus question de se protéger, il suffit juste de sauver sa peau. Maintenant, personne n'en sait vraiment plus que ça, à mon avis.
Par contre, on sait qu'on peut la diminuer au fur et à mesure qu'on l'explore.
Eh ben ça c'est encore une question qui est pas si évidente que ça.
OK.
On parlait tout à l'heure de l'inné et de l'acquis. Moi je pense qu'effectivement on peut l'améliorer, et donc la préparation mentale ça sert à ça. Maintenant les évidences scientifiques elles sont pas si nombreuses, et notamment par rapport aux athlètes de haut niveau. Tant qu'on n'arrivera pas à montrer que on est plus fatigué. Alors il y a quand même quelques études, notamment sur dans le show. J'ai une étude en tête, puis il y en a d'autres, hein, mais quand même il y en a. Je dis pas qu'il y a rien, mais finalement il n'y en a pas tant que ça. Une étude dans le show que j'ai en tête où effectivement on a mis des gens à 35 degrés, et puis on leur a fait une prépa mentale où on leur a demandé enfin il y avait un gros contrôle bien sûr, hein, c'était une assez bonne étude. On leur a expliqué que tout un discours comme quoi finalement le show c'était pas si grave, qu'ils mettaient pas leur santé en danger, etc. Effectivement ils ont pu améliorer leur performance. Mais finalement la meilleure façon pour moi de le faire, ce serait de regarder si on peut diminuer cette réserve de sécurité. Ce serait d'aller regarder la fatigue, notamment la fatigue musculaire à la fin d'un effort. Et l'idée, c'est que si tu diminues ta réserve de sécurité, ben, ça veut dire que tu es allé plus loin dans l'effort et donc tu es plus fatigué. Et c'est pour ça, quand je disais, il y a une grande partie d'inné, quand on voit certains, je parlais de mon collègue, de mon copain, là, Philippe Sanchez, qui lui, à l'arrivée, était vraiment incapable de faire un pas, quoi. C'est-à-dire qu'on était obligé de le relever, etc. Donc ça c'était une partie innée, mais est-ce que si c'était entraîné, lui qui avait déjà des telles qualités, cette telle capacité à se faire mal, si on l'avait en plus entraîné, est-ce qu'il aurait vraiment gagné sur cet aspect-là? Peut-être. Le commun des mortels, oui. Pour des mecs qui sont déjà durs au mal, on va dire ça comme ça, de façon un petit peu naturelle, il n'y a pas tant d'évidence scientifique qui montre que ça peut s'entraîner, y compris sur des gens qui sont déjà au top. Ça, on pourrait dire la même chose de VO2 max, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont une VO2 max excellente. Ben oui, pour l'augmenter, ils sont pratiquement de façon innée, quoi. Ils partent, ils se mettent à courir, ils ont déjà une super VO2 max. Oui, ils vont quand même l'augmenter un petit peu, mais c'est beaucoup plus difficile de l'augmenter. Ben, c'est un peu la même chose pour cette diminution de la réserve de sécurité. Ceux qui en ont déjà une petite, et sans jeu de mots, une petite réserve de sécurité, j'entends, ben, comment ils font pour la réduire encore? C'est un peu compliqué. Voilà, après, tu as quand même des études aussi. Alors c'est là on parle d'autres choses, mais finalement c'est un peu la même chose où on a limité parce que finalement cette réserve de sécurité, elle va être très dépendante des informations que tu reçois. Parce qu'à un moment donné, quand on veut dire j'arrive au maxi de perception de l'effort, ben, la perception de l'effort, elle dépend de deux choses. Elle dépend de quand tu fais un effort. Tu as besoin d'envoyer évidemment une commande au muscle, donc du cerveau au muscle, et il y a une copie qui se fait au niveau du cortex sensitif pour dire oui, tu es obligé de pousser. Donc ça, c'est dur. Donc ça, c'est notamment quand tu cours en montée, par exemple. Et puis donc ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes feed forward. Et puis tu as une deuxième partie qui sont les mécanismes feedback qui sont l'inverse, c'est-à-dire qui proviennent des sensations qui remontent de la périphérie. Et qui t'indique aussi, bah oui, là, les muscles, ils ont souffert, il y a de l'inflammation ou il y a de l'acidose parce que tu as poussé trop fort, etc. Donc ces mécanismes de feedback qui vont aussi contribuer à la perception de l'effort. En tout cas, c'est mon avis, il y a les deux qui jouent. Il y a un peu un débat scientifique dans la littérature, mais globalement, je pense que c'est les deux qui jouent. Le feedback étant plutôt en descente, par exemple. En descente, tu n'as pas besoin de pousser. Pourquoi tu ne vas pas plus vite? Parce que tu as ce frein qui provient de cette douleur à chaque fois que tu poses le pied, hein, quand tu as fait un ultra, avec tes courbatures, etc. Donc, tu peux pas te lâcher parce que tu as mal. Si tu accélères, tu as plus mal et donc tu t'approches de ta réserve de sécurité. Donc, tu ralentis pour pas y rentrer. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines études qui ont bloqué ce signal feedback, ce signal afférent, on dit, avec du fentanyl, donc un anesthésique. Anesthésiant et donc un produit anesthésiant donc qui bloque les infos nociceptives, les infos douloureuses et les études ont montré qu'effectivement les sujets étaient capables d'aller plus loin en termes de fatigue musculaire et donc il y avait bien une diminution de la réserve de sécurité mais de façon pharmacologique et là on parle de évidemment c'est interdit et c'est une bonne chose que le tramadol ait été interdit d'ailleurs par le nouveau code antidopage, ou va l'être en 2024, je sais plus, en tout cas ça l'était dans le vélo, il me semble, de mémoire. Quoi qu'il en soit, parce qu'effectivement, c'est un moyen artificiel de diminuer cette réserve de sécurité, et donc ça veut dire d'aller plus loin dans l'effort, et donc d'être plus fatigué, donc de se mettre un petit peu plus en danger d'un point de vue physiologique. Mais tant qu'on passe pas à des méthodes pharmacologiques interdites, ou pharmacologiques tout court d'ailleurs, interdites ou pas interdites, à mon avis, les antidouleurs et encore plus les anti-inflammatoires, mais ça c'est encore un autre débat, on pourra en parler après si tu veux, devraient être interdits en ultra pour justement se laisser la possibilité d'écouter ce signal qui provient de la périphérie et qui nous dit bon ben là quand même même si l'être humain est bon pour l'endurance, là, t'as fait de l'ultra-endurance, donc t'allais peut-être un petit peu plus loin que ce que l'être humain est capable de faire, que ce que ton corps est capable de faire. Donc, ça serait bien que tu diminues un petit peu ou que tu te reposes un petit peu. Donc, si on prend pas d'antidouleurs, si, donc, bien évidemment, les trucs interdits, mais même les antidouleurs classiques, mais qu'on travaille uniquement sur l'aspect prépa mental pour diminuer la réserve de sécurité, moi, je suis OK avec ça. Mais si on passe du côté sombre, là, je suis plutôt OK.
Oui, parce que tout à l'heure, quand je disais que les limites de la performance humaine n'étaient pas physiologiques mais mentales, tu m'as repris en disant que évidemment, ce modèle de la chasse d'eau, il est totalement dépendant de cette physiologie. Et donc là, en fait, tu brouilles complètement le signal et ce qui devrait lui permettre de couper et justement de se protéger. Et donc ça pourrait te pousser à dépasser une limite qui serait potentiellement mortelle.
Alors, c'est pas forcément que les antidouleurs. Hein. Si tu prends des excitants du système nerveux, sans doute c'est la même chose. Tu prends des amphétamines. En fait, tu brouilles le signal. C'est une assez bonne expression, effectivement. Tu brouilles le signal.
Et la caféine?
Et la caféine, bon, ça a été autorisé, donc on va faire confiance aux instances médicales. Ça a été interdit, ensuite limité, et ensuite, il me semble maintenant que c'est plus limité même. Donc sans doute que le pouvoir de la caféine n'est pas assez élevé pour se mettre en danger. Mais c'est sûr que si tu prends de la caféine, tu vas réduire la réserve de sécurité. Donc après, chacun fait son. Pour le coup, là, j'aurais un avis un petit peu plus modéré en disant, ouais, quand même, si tu fais de l'ultra, tu pourrais dire, bah, si tu veux effectivement jusqu'au boutiste, tu vas dire, bah oui, tu viens de nous dire que faut pas prendre d'antidouleur, et puis tu es OK pour prendre de la caféine. Et effectivement, je le suis. Donc, ça peut paraître un peu une démarche un peu hésitante. Et ça l'est, peut-être d'une certaine façon. Alors c'est pas parce que je l'ai fait que c'était bien. Moi, j'ai pris des gels à la caféine pendant les courses, plutôt par rapport à l'aspect privation de sommeil. Mais effectivement, si on était un puriste, et je me prétends pas du tout un puriste devrait dire, moi, je fais de l'ultra, pas forcément pour me faire mal, c'est juste pour me faire plaisir et découvrir, comme tu disais, repousser mes limites, découvrir. De l'introspection, etc. Donc, j'ai pas besoin de caféine, et ça, ce serait très bien. Mais comme je te l'ai dit aussi, moi, j'étais quand même, sans être un athlète d'élite, j'étais quand même plutôt à jouer un peu le podium sur l'UTMB, puisque j'ai réussi à faire 4 une fois, par exemple. Et donc, c'est vrai que sans caféine, c'est un peu compliqué, ouais, de pouvoir lutter contre la privation de sommeil. Et sur le tort, c'était
Et il y a
pire.
des stratégies qui permettent de vidanger un petit peu la cuve pendant une épreuve autre que celle de s'arrêter de dormir.
Ouais, après c'est de la prépa mentale, hein. C'est tout ce qui est les stratégies dissociatives où tu vas te centrer sur les aspects des parties de ton corps qui sont relâchées. C'est l'appel à des images positives, ce genre de choses. Ça permet effectivement de. Alors après, on sait pas trop d'ailleurs si ça permet de vidanger un peu ou si ça limite le débit de
Le
remplissage.
débit, ouais.
Mais bon, après le modèle, il n'est pas non plus. C'est pas un modèle scientifique, on l'aura compris, mais c'est la même idée de dire je vais limiter l'augmentation du niveau d'eau dans la cuve, alors soit en vidant un petit peu, soit en ralentissant le débit.
Est-ce que tu utilises ce modèle aussi dans ta vie de tous les jours, notamment dans ton travail? Tu as dit que tu avais des semaines qui étaient parfois très intenses. On voit la recrudescence de burn-out dans les entreprises, chez les chefs d'entreprise, etc. Parce que concrètement, là, au final, il est lié à des ressentis physiologiques, mais à un stress, quel qu'il soit, quelque part. Donc, on pourrait très bien utiliser le même modèle dans ta journée et te dire, ben, plus j'ai de stress, plus j'ai de charges cognitives, etc., plus je remplis ma chasse d'eau, ce qui explique qu'en fin de journée, ben, je sois peut-être en mode saturation et incapable de supporter la moindre contrariété. Et d'ailleurs, de façon assez paradoxale, peut-être que dans ce contexte-là, une façon de vider, de vidanger un petit peu la cuve, ça serait pas peut-être de se reposer, mais peut-être justement d'aller courir. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors il y a beaucoup de choses et c'est je souris parce que c'est effectivement des choses que j'essaye de proposer. Maintenant, je suis pas du tout sûr que ça ait du sens. Je pense que effectivement tu as raison et que ça peut s'appliquer. Bon, il faut quand même rappeler que le modèle il a été fait au départ, le modèle de la chasse d'eau pour les efforts d'endurance ou voire d'ultra-endurance. Il n'empêche effectivement, y compris d'ailleurs dans des articles scientifiques, j'ai essayé de vendre. J'ai rien à vendre, hein. On a compris l'expression du mot vendre, cette idée de dire qu'effectivement on a. Alors je suis pas le seul à penser ça, hein. Il y en a d'autres aussi qui seraient d'accord avec moi, mais globalement de dire qu'on a un plafond. Donc finalement un plafond, ça revient à la réserve de sécurité. On va arriver à un moment donné où où le corps va dire stop. Et finalement l'idée de dire oui mon ultra est remplacé par ma journée de travail ou ma semaine de travail. Moi je suis assez persuadé que ça a du sens. Et sauf que ce qui va en ultra, ce qui va être le déterminant à 95% du remplissage de la chasse d'eau, ça va être l'effort physique dans ta journée de travail. Ça va être peut-être un petit peu l'effort physique d'ailleurs, à force de faire et notamment là, je parle des gens qui sont très très déconditionnés, qui doivent quand même monter les escaliers, etc. Et ça va les fatiguer. Mais pour quelqu'un qui serait plus entraîné, ça va être beaucoup moins l'effort physique que la charge mentale. La charge de travail, la charge cognitive, etc. Mais au final, on en revient à la même chose. C'est effectivement à un moment donné, on va dire stop. Et moi, je pense qu'effectivement, les gens qui sont déconditionnés. Alors, quand je dis j'essaye de vendre le modèle, c'est dans le cadre surtout de les journées de travail de personnes pas pathologique, c'est encore autre chose. Peut-être on en parlera après, mais moi j'essaie plutôt de vendre le modèle sur des gens qui ont des niveaux de fatigue chronique et qui suite à des maladies, cancer ou stérose en plaques ou d'autres types de maladies, qui sont des gens qui sont très fatigués au quotidien. Et on a pu montrer des liens entre la résistance à la fatigue physique, c'est-à-dire des gens qui sont un peu moins déconditionnés, qui sont un petit peu plus entraînés, notamment quand on les remet à l'exercice physique, ben ils deviennent plus résistants à la fatigue, on dit la fatigabilité pour la différencier de la fatigue globale, générale, chronique. La fatigabilité, c'est-à-dire comment je me fatigue quand je fais un effort physique donné. Eh bien, quand on est, il y a un lien entre la fatigue chronique et ce niveau de fitness, tu veux, cette capacité à résister à la fatigue aiguë, à la fatigabilité. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'effectivement, quand on est plus en forme, eh bien, on atteint ce plafond un petit peu plus doucement, plus tard, si tu veux, dans la journée, ce qui permet de faire plus de choses. Et le problème de la fatigue, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la fatigue, c'est-à-dire que quand tu es fatigué, la première chose que tu as à faire, que tu as envie de faire, c'est de te reposer. D'accord? Et quand tu te reposes, tu vas adopter ce qu'on appelle des comportements sédentaires. Et évidemment, rester couché sur son canapé, ça va renforcer ton déconditionnement. Tu vas perdre de la masse musculaire, tu vas perdre de l'endurance, ce qui fait que tu vas être encore plus fatigable, encore plus fatigué. Et donc, tu vas continuer à adopter ces comportements sédentaires. Donc, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où tu vas t'enfoncer progressivement. Et tu finis ta journée couché sur le canapé, donc tu fais plus rien. Donc l'idée de et l'intérêt de l'exercice, c'est de sortir justement de ça. Et c'est pas facile, évidemment, parce que c'est pas naturel. Quand on est fatigué, naturellement, on a envie de se reposer. Mais toutes les études montrent que quand on entraîne des gens, à condition de ne pas faire n'importe quoi, bien sûr, eh bien, on va diminuer le niveau de fatigue. Alors, c'est pas qu'une histoire une meilleure résistance à la fatigabilité à l'exercice, parce que l'entraînement a plein d'autres bienfaits comme la diminution de l'inflammation, l'amélioration du sommeil, etc. Donc c'est sans doute un ensemble de choses, mais je pense quand même que le fait d'être mieux entraîné, d'être moins déconditionné plutôt, on va dire ça comme ça pour les gens qui sont malades, pas tellement d'entraînement que de pas tant d'entraînement que de déconditionnement, eh bien finalement quand ils auront à faire leurs tâches de la vie quotidienne, ça va, ils vont trouver ça un petit peu plus facile et au final ils vont atteindre ce plafond, cette réserve de sécurité plus tard, et plus comme ils feront plus de choses, ben plus ils feront de choses et plus ils seront capables de faire de choses en réalité. Et voilà, donc se forcer un petit peu, alors se forcer, ça veut pas dire tout seul dans son coin, ça peut vouloir dire participer à des programmes d'activité physique adaptés, ça peut être se faire aider d'un conjoint ou d'un membre de la famille, etc. Mais en tout cas, se sortir de ce cercle vicieux. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel et l'activité physique pour plein d'autres choses, mais en particulier pour la fatigue chronique, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors après, tu as dit quelque chose qui était très juste parce que dans mon modèle, on peut se dire que ça, il y a un truc qui fonctionne pas, c'est de se dire, bah oui, soit quand je me fatigue physiquement, je vais me rapprocher de mon plafond. Quand je me fatigue mentalement avec la charge mentale, je vais aussi me rapprocher de ce plafond. Et donc, ça fonctionne, ça colle pas avec le fait de dire oui, si je vais courir, je me sens mieux. Et effectivement, je pense que quand t'es un peu sportif et que tu fais un effort, pas un effort très intense, hein, il faut pas que ce soit non plus quelque chose de très poussé. Mais si je vais courir 45 minutes, par exemple. Effectivement, il y a des chances que, contrairement à ce que dit le modèle, tu baisses un peu le niveau d'eau dans la chasse d'eau. Mais on est dans un, donc c'est, si tu veux, dans une journée de travail classique où effectivement on a tous eu cette expérience où tu te sens pas bien, tu fais l'effort. C'était encore mon cas hier. J'ai encore un truc à préparer, une conf à préparer pour demain, etc. J'ai fait l'effort donc je me sentais vraiment fatigué. J'ai fait l'effort quand même d'aller courir. C'était pas facile de mettre les baskets. Bon, j'ai de la chance, il faisait beau, j'étais en télétravail, donc je voyais les collines à côté de chez moi, j'avais envie d'aller courir. Et ben, quand je suis rentré, effectivement, je me sentais mieux. Mais effectivement, en théorie, si on repart du modèle de la chasse d'eau, c'est pas compatible parce que ça aurait dû renforcer mon niveau de, ça aurait dû me rapprocher de mon, de ma réserve de sécurité. J'aurais dû aller me coucher plus tôt. En réalité, ça m'a sûrement permis de travailler plus tard. Bon,
Ouais,
c'est un petit peu long aux explications, mais tu m'as dit
non, c'est.
qu'on avait le temps, alors je le prends.
Non, c'est hyper intéressant. Et je te pose une enfin, je te propose une vision vis-à-vis de ça qui est étayée sur rien du tout, hein. Tu l'auras compris, je suis très approximatif et c'est pour ça que je suis content d'avoir accès à tes recherches, à ta connaissance et puis aussi peut-être à ce côté sensitif parce que tu es aussi un expérimentateur dans ton propre quotidien, par ta pratique, par ton travail. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que, mine de rien, dans ta journée de travail, il y a plein de petites sources de stress, en fait, qui viennent déclencher des petits pics de cortisol, etc., dans ton corps, qui sont des stress mentaux, mais le corps fait pas forcément la différence, et que le fait d'aller courir, justement, permet d'évacuer et d'utiliser, entre guillemets, toutes ces décharges de cortisol, d'adrénaline, etc. Parce qu'à la base, tout ça, c'est censé nous mettre en mouvement, nous permettre d'échapper à un danger. Donc, dans le fait d'aller courir, peut-être d'évacuer toutes ces catécholamines d'une certaine façon, et puis ce qui expliquerait cette sensation d'avoir diminué, vidé un petit peu la cuve en revenant.
J'en sais rien, peut-être. Je t'avoue que sur cette partie-là, on peut dire d'une certaine façon que j'en suis là, avec le modèle et son application qui est beaucoup plus récente, effectivement, à la vie quotidienne. Alors, dans un premier temps, la fatigue chronique, comme j'ai expliqué, et puis effectivement, pourquoi pas la vie quotidienne de personnes qui ne sont pas malades. Donc, ça reste peut-être quelque chose à creuser. Moi, je fais juste l'expérience qui est partagée par beaucoup de gens, de dire qu'effectivement, on va diminuer un peu le niveau d'eau dans la cuve quand on va courir, alors que le modèle nous conduirait plutôt à penser l'inverse, qu'on l'augmenterait. Pourquoi ça reste à creuser, je saurais pas le dire, mais voilà, si c'était c'est un, il faut que l'exercice bien sûr soit choisi. Je pense que si on m'avait obligé réellement à aller courir, pas sûr que ça aurait eu les mêmes effets. Mais là encore, c'est difficile. Il n'y a personne qui m'a mis un pistolet sur la tempe, donc je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, donc j'en suis là. Pour quelles raisons on se sent effectivement mieux, et l'influence que ça a sur le modèle, etc. Bon, pour l'instant, je saurais pas trop, je pourrais pas trop t'en dire plus.
Et t'as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a plu, qui ressemblait à plus on en fait, plus on est capable d'en faire, notamment vis-à-vis du niveau de fitness. Donc tu l'as exprimé dans le cas de pathologie ou de fatigue chronique. Moi j'ai envie d'extrapoler dans la vie de tous les jours. Il y a deux choses que ça m'évoque. La première, c'est que est-ce que du coup toi, en tant que pratiquant d'ultra, ça te permet d'être ultra performant entre guillemets dans ta vie quotidienne, parce que justement t'as ce niveau de fitness qui est plus élevé, potentiellement tu as peut-être un stock mitochondrial qui est plus grand, tu fais plus circuler le sang, la lymphe, peut-être que tu oxygènes mieux tes cellules, tu as peut-être aussi une capacité respiratoire, ventilatoire, tu vois, qui exploite mieux toutes les alvéoles pulmonaires et donc ton cerveau est mieux oxygéné. Enfin, il y a un tas d'adaptations physiologiques potentiellement liées à la pratique sportive qui peut-être te permettent de diminuer le débit de remplissage de ta cuve au cours de la journée ou même. Et donc là, c'est la deuxième chose que ça m'évoque, c'est peut-être même d'avoir une plus grande cuve. Est-ce que tu as cette sensation-là?
Une plus grande cuve, j'en sais rien, effectivement. C'est encore une fois, j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Pourquoi pas? C'est pas complètement. Alors pour le coup, moi je dirais plutôt qu'une plus grande cuve, on peut ramener ça à diminuer la réserve de sécurité. Finalement, ça revient au même, c'est-à-dire que tu as plus de place pour mettre de l'eau, donc ça revient un peu au même. Pourquoi pas une plus grande cuve? Du coup, est-ce que ça aide à être plus performant l'activité physique? La réponse est oui. Plus performant d'un point de vue mental, physiquement, ça me semble évident. Hein. Quand on s'entraîne, on est plus performant. Est-ce qu'on est plus performant au niveau mental? Ça, c'est sûr que oui. Là, il y a pas mal d'études qui ont montré ça, les effets, le lien entre niveau d'activité physique et performance cognitive, ils sont maintenant établis, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue expérimental ou même d'un point de vue épidémiologique, où on a regardé justement les liens entre niveau d'activité physique et performance académique, par exemple scolaire, universitaire ou même dans le monde du travail. Donc ça, c'est bien documenté. Je crois qu'il y a assez peu de doutes là-dessus. Alors après, c'est pas forcément en lien avec le modèle de la chasse d'eau, hein. C'est simplement effectivement que tu l'as dit toi-même, hein, de mieux oxygéner le cerveau, de faire de l'exercice, ça permet aussi d'améliorer la neurogénèse. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments dans la littérature qui montrent que ça fonctionne bien. Et en particulier des études anciennes maintenant qui montrent que quand on remplace par exemple à l'école une heure de, je dis pas simplement d'ajouter une heure d'activité physique, je dis bien de remplacer une heure de matière fondamentale par une heure d'activité physique, au final les élèves sont plus performants sur les résultats scolaires. Donc là, il y a assez peu de doutes là-dessus. N'en déplaise aux gens qui ont jamais apprécié le PS à l'école et qui ne jurent que par les maths, le français, l'histoire géo, mais c'est pourtant la réalité. Même si ça leur fait pas plaisir, c'est comme ça.
Je disais une plus grande cuve parce que j'imaginais, tu vois, le développement du pôle mitochondrial, et donc je me disais que s'il y a plus de mitochondries, on peut potentiellement produire plus d'énergie. Et donc, mais bon, c'est juste jouer un petit peu sur les termes.
Oui, alors là, bon, je n'irai pas jusqu'à la Je veux bien croire que mon modèle, il soit un peu là pour déconner, mais on peut pas non plus lui faire dire n'importe quoi.
Ok. T'as dit qu'on était le seul avantage comparatif vis-à-vis des autres animaux, c'était notre capacité à l'endurance, justement, à résister, à évacuer la chaleur, toute cette force élastique, l'arche du pied, etc. Est-ce que le fait que on ait cet avantage concurrentiel veut forcément dire que c'est bon pour nous? Et donc, je te poserai la question vis-à-vis des critiques qu'on peut faire à la course d'endurance ou à l'ultra de façon générale, telles que les mini-hémorragies intestinales, le fait d'être obligé de manger beaucoup plus de calories pour supporter ou en tout cas compenser cette activité physique relativement intense. Donc il y a plusieurs choses liées à ça. Et puis de l'autre côté, pourtant, il y a des études qui ont montré, par exemple, que les risques de mourir toutes causes confondues diminuaient, je crois même jusque 15 ou 20 heures d'entraînement par semaine. C'était Fabrice Kuhn qui m'avait partagé cette étude que j'avais trouvée très intéressante. Ouais, je me pose la question, qu'est-ce que t'en penses, où s'arrête la santé et où commence la performance?
Alors ça, c'est une question fascinante, hein, effectivement. Est-ce que, en gros, tu poses la question de est-ce que les ultra-trailers vont creuser le trou de la sécurité sociale ou pas? Et d'une façon générale, pour sortir de l'ultra-marathon, effectivement, l'excès d'activité physique, jusqu'où il faut aller pour arriver à un optimum de santé? Et est-ce que c'est derrière, quand je continue à augmenter les doses d'entraînement, est-ce que ça remonte? Est-ce que je veux dire, est-ce que la mortalité remonte, c'est-à-dire est-ce que je suis en moins bonne santé? Quoi répondre à ça? C'est un sujet vaste, encore une fois, donc je vais essayer de faire un peu plus court que tout à l'heure. Globalement, ce qu'il faut dire, et je pense que ça c'est le plus important, c'est que pour, allez, je vais dire un chiffre un peu au hasard, mais je dois pas être très loin de la réalité, pour au minimum 95% des gens, faire plus d'exercice égale plus de santé. D'accord? Donc ça c'est la première chose, c'est quand même essentiel. Avant de se poser la question de savoir jusqu'où je peux aller, ben commençons déjà par en faire plus et puis on se posera la question plus tard. Et je pense qu'il y a quand même 95% des gens qui iront pas jusqu'à ce maximum, si tant est que ce maximum existe. Parce que finalement la littérature, ben, tu l'as dit toi-même, tu as rappelé les études qui montrent que effectivement les coureurs cyclistes du Tour de France vivent plus une espérance de vie plus longue que la moyenne. Et puis quand tu regardes un petit peu les études, globalement ce qui ressort, c'est que tu as quelque chose qui est comme ça. C'est un peu une diminution et après tu as plutôt un plateau. Alors sur la fin, effectivement, pour ceux qui font vraiment beaucoup beaucoup, dont font partie effectivement les tenants de l'ultra endurance, effectivement ça peut remonter très légèrement quand tu exagères en termes de pratique physique. Mais un, c'est léger, c'est-à-dire c'est pas un U. Ça, c'est vraiment important de dire. C'est-à-dire c'est pas tu diminues, je fais de l'activité physique, je diminue ma mortalité, je suis en meilleure santé, je passe par un optimum et je remonte avec une courbe, une pente ascendante très forte. C'est pas comme ça. Si ça remonte, c'est sur une pente très faible. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Maintenant, effectivement, qu'il y a un optimum parce que ça remonte. Je pense qu'on peut quand même être d'accord là-dessus. Et donc, du coup, alors, que ce soit les gens qui font de l'ultra ou, à mon avis, encore plus problématique, les gens qui sont addicts au sport, qui sont pas forcément des gens qui vont s'inscrire à des épreuves d'ultra-endurance, oui, globalement, quand on est addict au sport, on est quand même en moins bonne santé que quand on est capable d'en faire un petit peu moins lorsqu'on est blessé, par exemple. Donc ça c'est un autre élément. Après, la dose d'activité physique et la pratique de l'ultra, c'est quelque chose qui est corrélé, mais très faiblement. Donc, quand on m'interroge sur cette question de la santé et de l'ultra, j'ai encore fait un webinaire là-dessus cette semaine pour l'European College of Sport Science. Je rappelle quand même que ce qui, avant la distance pratiquée en compétition, ce qui va déterminer le nombre de kilomètres que l'on va parcourir chaque semaine à l'entraînement, c'est le niveau du coureur. Les marathoniens ou même les coureurs de 800 mètres de haut niveau courent beaucoup plus chaque semaine que 95% des coureurs d'ultra qui font l'UTMB parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'ils sont professionnels, etc. Donc finalement, peut-être qu'en moyenne, les gens qui vont faire l'UTMB vont s'entraîner un petit peu plus à niveau équivalent, mais ce qui va surtout déterminer le potentiel problème de santé, c'est le niveau de performance. Et puis finalement, quand on regarde, tu parlais de micro-hémorragie, d'insultes au sens médical du terme, du système musculo-squelettique, des problèmes cardiaques, respiratoires, immunitaires, bref, tu peux prendre tous les organes un par un, et effectivement, tu vas avoir des effets délétères de l'ultra aigus. Mais la question qui se pose, déjà, un, ils sont pas si graves que ça, puisque recense très peu de gens qui vont, on a travaillé aussi là-dessus avec un collègue, Laurent Gergelet, très peu de gens qui vont en réanimation ou qui meurent d'ultra, ça arrive, c'est vraiment exceptionnel. Quand on meurt d'ultra, en général, c'est qu'on est en montagne et qu'on a pris un orage, etc. Mais de mourir d'ultra, ça existe quasiment pas, à quelques exceptions près, ou en tout cas qui sont pas morts, mais qui sont passés en réanimation. Donc nous, on a trouvé une vingtaine de cas de personnes qui sont fait soit dialyser, soit qui ont eu des hyponatrémies, ce genre de choses, et qui ont terminé effectivement en soins intensifs, mais globalement c'est quand même exceptionnel. Et la plupart d'entre eux d'ailleurs avaient pris des anti-inflammatoires, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure sur attention de pas brouiller le signal, encore que les anti-inflammatoires ils ont en plus un effet délétère spécifique sur le rein. Bon bref, je m'égare un petit peu. Donc pour revenir quand même à la question, c'est oui, il y a des effets aigus. Maintenant, on récupère. Ils sont pas si graves. On en récupère tout à fait bien. Quand on les répète, est-ce qu'il y a un effet à long terme? Ben ça, c'est beaucoup moins sûr. Il y a quelques études, mais très peu, qui ont essayé d'investiguer ça. Et j'ai une étude de suivi de cohorte. Alors, c'est sur des données, comment on dit en français, reportées, self-reported. Porté par les coureurs eux-mêmes, donc après ça vaut ce que ça vaut, hein, ce genre d'enquête, mais il n'empêche que quand on regarde la consommation de soins, combien de fois ils vont voir leur médecin, combien de fois ils vont à l'hôpital dans l'année, y compris d'ailleurs en raison de leur pratique, hein, ben finalement tu te rends compte que les athlètes d'ultra sont beaucoup plus en forme que la population. C'est à peu près toutes les conditions médicales, toutes les pathologies, ils sont plus en forme, ils en souffrent moins, ils sont moins absents au travail, ils sont ou à l'école, ceux qui pratiquent à haute dose, que les gens qui sont la population classique. À deux exceptions près, qui sont les allergies, ils souffrent plus d'allergies et d'asthme. Donc ça s'explique par le fait qu'ils sont beaucoup dehors, qu'ils ventilent beaucoup de longues heures, de grandes quantités d'air, et donc ça, effectivement, ça déclenche un petit peu des asthmes d'effort. Mais pareil, c'est pas des choses qui sont pas des choses qui sont très très graves. Donc au final, quand toutes ces choses étant considérées, j'avais promis de faire un peu plus court, et je m'aperçois que je le fais pas, mais si tu considères tous ces éléments que je viens de t'apporter avec des visions un peu différentes. Bon, tu peux quand même te poser la question du niveau de drama de faire un excès d'exercice. Je nie pas le fait que oui, ça remonte un petit peu. Je nie pas le fait que si tu fais de l'ultra n'importe comment en faisant 10 ultras par an, tu vas te mettre en danger. Mais globalement, si tu es raisonnable dans l'ultra, ça peut paraître deux mots antinomiques, mais moi, je crois que ça peut quand même, ils peuvent tout à fait être compatibles. Si tu es raisonnable dans ta pratique et que tu fais pas n'importe quoi, tu peux être un pratiquant d'ultra en bonne santé. Et d'une façon générale, tu peux faire beaucoup d'activités physiques et être très bien dans ta vie. Maintenant, si tu veux être vraiment en bonne santé, on sait ce qu'il faut faire à peu près. Et c'est, je répète, plus que 95% des gens.
Oui, je pense que les gens qui sont capables ou qui font et qui ont envie de faire 10 ultras par an, ils se comptent quand même sur les doigts d'une main. Bon, peut-être que j'exagère, mais ça doit clairement pas être la majorité. Écoute Guillaume, je profite de t'avoir pour te poser, pour te demander un petit conseil personnel. J'ai pour projet de réaliser 4 ultra trails en autonomie sur 5 jours, qui sont 250 km, mais donc sur 5 jours, donc ça fait 50 km par jour, dans 4 endroits un petit peu extrêmes. Donc il y a le désert, le cercle polaire arctique, la jungle amazonienne et puis la haute altitude. Est-ce que tu as un conseil à me donner pour préparer ces épreuves?
Bah, le meilleur conseil, c'est d'aller demander conseil à des experts sur chaque, parce que finalement, ce qui va être, alors tu peux demander conseil à des gens qui sont experts de l'ultra en termes d'entraînement. Ou bon, après, moi, je peux un peu te conseiller sur effectivement la préparation physique pour courir ces 5 fois 50 km. Mais après, il faut demander conseil à des gens qui sont experts de la chaleur, qui sont experts de la haute altitude, donc qui ont des médecins qui ont l'habitude de traiter des gens ou de préparer des gens qui montent en haute altitude. Pour la jungle, bon, ben là, il faut demander à Mike Horn. Non, blague à part, il faut, là, je suis un peu du mal à te conseiller.
J'aurais peut-être des ans pour me motiver.
Et puis le froid, pareil, il y a des gens qui sont spécialistes du froid et qui, je sais pas, à Liffremont, par exemple, qui ont à Chamonix ou peut-être d'autres structures. Et parce que finalement, l'enjeu, ça va pas tellement être la course en elle-même, ça va être les conditions environnementales. Donc, ouais, s'adresser à des spécialistes, c'est le meilleur conseil que je peux te donner.
Ok, merci Guillaume. Je te propose d'arriver sur les petites questions de fin. Est-ce qu'il y a 3 choses que tu fais tous les jours, ou en tout cas le plus souvent possible, et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel? Des petites routines, des habitudes?
Tous les jours, tous les jours. Un bon petit déj. C'est sacré pour moi. Je sais pas si j'optimise mon potentiel, mais en tout cas, je me fais plaisir et je lâcherai jamais sur mon petit déjeuner.
Petit-déj lipides protéines ou petit-déj pain beurre confiture à la française?
Ça dépend, ça varie. Beaucoup de fruits et plutôt, ouais, plutôt céréales ou même pain beurre, ça dépend des jours. Passer un peu du temps avec ma famille, malgré le travail. Ça, c'est quand même important. Et puis, c'est pas tous les jours, mais quand même essayer d'avoir une activité physique la plus régulière possible. Donc, je me suis remis à courir, on en parlait tout à l'heure, de courir un petit peu plus que 95% des gens. Alors, pour le coup, je pense que je suis vraiment loin de, je suis loin de ce que je faisais à l'époque. Encore, j'ai jamais été quelqu'un qui s'entraînait énormément, mais voilà, recourir un petit peu plus que j'ai fait pendant les 10 dernières années où c'était vraiment le minimum sport santé. Essayer de faire au moins 4 ou 5 fois même par semaine du sport, et enfin beaucoup de course à pied, puis un peu de PPG. Et ouais, non, je vois la différence, hein. J'ai perdu un peu de poids, je me sens mieux. Donc ouais, c'est pas un scoop, mais quand même, l'activité physique, c'est quand même bien.
T'as l'impression que les qualités athlétiques que t'as développées lorsque tu t'entraînais plus ont tendance à être maintenues ou en tout cas à revenir rapidement malgré des périodes où, comme tu le disais, de par l'exigence de ta vie, tu t'es moins entraîné?
Ça, j'ai pas trop les données. Alors personnellement, non. Je vois surtout que je prends de l'âge et que ça devient de plus en plus difficile. Mais ça, c'est pas parce que et c'est avec l'âge qu'effectivement tu te dis, bah, pourtant je m'entraîne un petit peu, et finalement t'es déçu du résultat en termes de vitesse de course. Tu te dis, bah, merde, quand même. Il y a 20 ans, si je m'étais entraîné 5 fois par semaine, forcément j'aurais couru plus vite que ça. Mais c'est comme ça. C'est les effets de l'âge. On n'y peut pas grand-chose. Est-ce que le fait d'avoir fait de la pratique physique, la question aussi, c'était est-ce que le fait de s'être entraîné une période de ta vie te permet de revenir plus vite? Je suis pas persuadé que ce soit ça. C'est plutôt le fait que si tu t'es entraîné une partie de ta vie, ça veut dire sûrement tu avais quand même un peu des qualités pour ça. C'est-à-dire que si tu as envie de t'entraîner, c'est que tu es quand même un petit peu doué pour ça. Enfin, je veux dire, ça, de t'entraîner de façon significative et de faire ta compétition. Et donc, si tu as les bons gènes, si tu arrêtes, quand tu te réentraînes, ça revient plus vite parce que tu as les bons gènes. C'est plutôt ça, à mon avis, que le fait qu'il y a une mémoire. Parce que finalement, malheureusement, l'activité physique, c'est pas un vaccin. C'est un médicament. Donc, un médicament, il faut le prendre tous les jours pour qu'il soit efficace. Ce serait trop facile, hein, si ça avait été tu t'entraînes très fort pendant un an, ça, tu es vacciné et pour le reste de ta vie, tu es protégé contre toutes les maladies cardiovasculaire, etc., le diabète, mais non, ça marche pas comme ça. Il faut s'entraîner tous les jours, en tout cas régulièrement.
J'adore la citation, j'adore l'image. Merci, merci pour ce partage, même si j'aurais préféré que tu me dises l'inverse.
Après, ça reste un plaisir quand même, malgré tout.
Bien sûr,
Oui,
bien
c'est
sûr.
dur. C'est dur d'y aller, mais quand même, qu'est-ce qu'on est bien après? Est-ce que tu t'es déjà senti plus mal après être allé courir qu'avant?
Non, non, clairement pas. Ben non, on en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, même des fois où tu te sens fatigué et tout, t'as pas envie d'y aller. Et puis après, je reviens et puis je dis, ah, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait d'y aller.
Alors moi, ce que je conseille en général, alors les conseilleurs sont pas les payeurs, mais globalement, c'est de se dire, et c'est valable pour beaucoup de choses. C'est pas la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, c'est pas tu te dis, ouais, j'avais prévu d'aller courir 1 heure, je suis fatigué, j'y vais pas. Tu peux te dire, bon, bah, allez, je vais mettre les baskets et si je fais 20 minutes, ben voilà, c'est déjà ça de pris. Et souvent, pas toujours, parce que parfois t'es vraiment fatigué et t'as pas du tout, et il faut, et c'est ça peut être même contre-productif, mais souvent, finalement, tu vas faire ton heure ou tes 45 minutes que tu avais prévues. Mais au moins, et puis si tu y vas pas, au bout de 20 minutes, si vraiment tu sens que c'est dur, bon, tu rentres et puis voilà.
Oui, et puis tu peux très bien courir tout doucement, tu vois, en laissant ton esprit divaguer, sans avoir aucun objectif de temps, sans
Voir
regarder ta montre ou quoi que ce soit.
marcher. Tu sais pas, t'as prévu d'aller courir, t'es fatigué, bah, déjà rien que sortir, aller prendre l'air. Si tu as la chance d'habiter en dehors d'une ville, c'est encore mieux. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, mais même si c'est pas le cas, ben, aller marcher dans un parc, par exemple, dans une ville, ben, c'est déjà bien. En tout cas, faire quelque chose et bouger, et si ça peut être tous les jours, c'est quand même mieux. Ouais. Et bouger, alors on change un petit peu de sujet, mais quand même, finalement, c'est en lien puisqu'on parle de santé. Bouger, c'est aussi lutter contre la sédentarité. C'est pas seulement être actif, c'est être le moins sédentaire possible. C'est-à-dire bouger vraiment au quotidien, ne pas rester comme on est en train de faire là depuis, je sais
Et
pas,
moi, je suis
peut-être
debout.
quoi. Oh, bah tiens, bah, je vais faire pareil. Alors, du coup, je vais aussi me lever parce que
Ah.
oh, parce que ça fait effectivement 1 heure, 1 heure bientôt et demie là qu'on est assis. Et voilà. Donc casser un peu cette, joignons le geste à la parole. Casser un peu cette sédentarité et faire un peu d'activité physique. Donc du coup, je sais pas s'il y aura la vidéo dans ton podcast, mais je vais en profiter pour même faire un peu de stepper. Donc, je vais attraper mon stepper et puis je vais faire un peu de stepper si ça ne te dérange pas.
Magnifique, ben justement, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce qu'il y a un outil que tu as acheté récemment ou même il y a un peu plus longtemps et qui a changé ton quotidien? Là, je te vois avec un bureau debout et un stepper. Est-ce que ça a eu un impact important sur justement ce combat contre la sédentarité, puis peut-être des tensions, des douleurs, etc., que tu pouvais avoir pendant la journée à être trop assis?
Alors complètement non, mais que ce soit un petit plus, franchement, quand la première fois j'ai vu ces outils, des gens qui marchaient sur tapis roulant, alors j'ai aussi acheté un petit tapis roulant là, il y a des choses qui sont pas trop chères et qui permettent aussi de marcher, de répondre à ses mails ou de faire des visios qu'on est en train de faire. Au début, quand j'ai vu ça, je t'avoue que ça m'a fait un peu sourire. Je me suis dit encore un gadget. Et puis finalement, la réflexion, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, je regrette pas, j'ai pas d'action, ni dans les bureaux debout, ni dans ce genre d'équipement. Mais franchement, c'est un petit plus. C'est voilà, ça change pas la vie, comme tu dis, mais c'est un petit plus. Et j'essaye de le faire régulièrement, effectivement. Donc là, c'est pareil. C'est pas, il faut le faire la moitié de la journée, sinon ça sert à rien. C'est 10 minutes, même si tu fais 10 minutes de stepper par jour pendant que tu fais une visio ou tu es en train de répondre au téléphone. Alors après, ça paraît un peu bizarre, donc effectivement, et ça l'aide d'une certaine façon de faire ça alors qu'on est en train d'échanger. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, enfin je pense pas, je l'espère, je formule un vœu pour que d'ici une dizaine d'années, le fait de rester assis 2 heures sans bouger, c'est ça qui paraîtra bizarre. Et que ceux qui font pas ce que je suis en train de faire, ou ce que tu es en train de faire aussi, puisque tu es debout, on les regardera bizarrement en disant, mais t'es bizarre là, pourquoi tu fais ça, tu te mets en danger. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui paraissons un petit peu excentriques.
Ouais.
Mais les mentalités peuvent changer. Ça sera
Bien
pas
sûr.
demain, mais ça peut changer.
Bien sûr. Et ouais, moi je suis un adepte, hein. Le bureau assis debout, j'ai un tapis anti-fatigue, MoveMat, ça s'appelle, avec des espèces de reliefs en dessous, donc ça fait comme un petit chemin de forêt, tu vois. Donc je peux bouger mes pieds et ça me donne c'est assez agréable. Et puis j'ai aussi un petit vélo Domios Decat, sur lequel je pédale quand je suis des formations, que je regarde que je regarde des vidéos. Donc, c'est une façon simple de rajouter un peu de mouvement dans mon quotidien. Et le dernier truc, c'est que j'ai une barre de traction. Et à chaque fois que je passe en dessous, je m'amuse à me suspendre. Et c'est pareil, ça détend tout le dos, etc. C'est hyper agréable.
Ouais, voilà. Donc, ça, c'est des petits gadgets. Mais au final, bout à bout, bon, ça peut faire la différence, effectivement.
Et sur une dimension plus philosophique, Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie?
Oula, c'est que je m'étais pas préparé à ça.
J'imagine.
Réussir sa vie, ça veut dire pas trop emmerder les autres déjà, être respectueux des autres, faire en sorte que les gens qui vivent avec toi soient le mieux possible. Et puis si en plus tu peux, comment dirais-je, c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions parce que tout de suite tu peux passer pour un petit peu présomptueux. Si tu peux un peu produire des choses qui restent, bah, c'est encore mieux, mais c'est pas la priorité, je pense.
Tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou tous les jours et qui pourrait leur permettre d'explorer une nouvelle dimension de leur vie ou de leur potentiel?
Je suis pas trop sur ce genre d'approche. Alors, défi, ça peut être bien pour initier les trucs, mais comme on l'a dit, alors si on reste sur le sujet du jour et sur la santé, l'activité physique, l'entraînement, etc. Comme on l'a dit, c'est pas un vaccin, donc c'est pas un truc que tu vas faire pendant 15 jours et qui va changer ta vie. Malheureusement, ce serait trop simple, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est plutôt que de dire un défi, c'est plutôt comment. Réfléchissez à comment vous allez pouvoir progressivement, c'est la notion de progressivité, elle est quand même importante, progressivement vous remettre dans un mode de vie plus actif. Et donc plutôt qu'un défi que je vais faire pendant 15 jours, c'est comme un peu les histoires des régimes, tu vois. C'est pas si je veux perdre du poids, quel régime je fais pendant 15 jours pour perdre 5 kilos. Ça, on sait très bien que ça fonctionne pas. Ben, pour l'activité physique, c'est la même chose. Si tu te mets à faire un défi, où tu vas faire un truc, je peux te dire, est-ce que tu es capable d'aller marcher 20 km par jour pendant les 15 prochains jours? Peut-être qu'ils vont le faire, au bilan des courses, ils vont se blesser, ils vont se dégoûter, puis ils arrêteront de faire d'activité physique. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de dire, commencez très doucement, faites un petit peu d'activité physique, voyez les conséquences que ça a sur votre vie, sur votre fatigue, etc. Notamment si vous êtes très fatigué et que vous n'avez pas le... Si vous n'avez pas le temps, il y a aussi des solutions. On vient d'évoquer ce type de solution pour casser la sédentarité. Ça peut être travailler sur les transports actifs pour essayer de remplacer un petit peu de temps de transport par un mode de transport plus actif. Et voyez l'effet que ça a sur votre vie. Mais encore une fois, c'est pas je change. Le discours, c'est vraiment pas comment vous pouvez changer radicalement pour devenir quelqu'un de super actif et qui mange d'un coup parfaitement, qui fait plus aucun écart, etc. C'est l'inverse, c'est de dire changer petit à petit, commencer par faire ne serait-ce que 10 minutes par jour. Faites 10 minutes d'activité par jour et puis si vous vous sentez mieux, peut-être que vous aurez envie de faire 20 et puis après 30 et puis après 40.
Ouais, c'est un peu la stratégie des mini-habitudes. On propose aux gens, par exemple, de faire une seule pompe par jour. Et puis, une fois que cette mini-habitude est ancrée dans leur quotidien, donc la voie neuronale, elle est bien renforcée, etc., c'est facile après de capitaliser dessus pour progresser. Et qui plus est, naturellement, c'est frustrant de se dire « Ah, j'en ai fait qu'une ». Donc, naturellement, t'as envie, en fait, d'en faire plus. Et petit à petit, c'est comme ça que, enfin, en tout cas, selon le livre, c'est comme ça que tu arrives à ancrer de nouvelles habitudes dans ta vie.
Alors une pompe, c'est peut-être un petit peu exagéré dans l'autre sens. Je veux bien qu'on soit progressif, mais faut pas exagérer. Contre 10 minutes, 10 ou 15 minutes de marche aller par jour, qui ne peut pas trouver 15 minutes dans sa journée, y compris les personnes les plus occupées. Donc c'est possible. C'est une question de priorité. C'est un peu moins de temps sur les réseaux sociaux et puis voilà.
Tu aurais un prochain invité à me recommander, à inviter sur Limitless pour parler de potentiel humain?
Alors, si tu veux, tu as cité Alex Chinson, là. Il pourrait être bien, mais je crois qu'il ne parle pas français. Donc, je crois qu'il est francophone, ton podcast. Après, sur quoi? Sur le potentiel humain?
Ouais. Physique ou intellectuel, hein. Ou la longévité, ouais. La santé.
Après, il y a plein de gens qui travaillent dans mon domaine qui sont très bien. C'est difficile Si tu es une personne, moi j'aime bien travailler, discuter avec des gens comme Laurent Bosquet, par exemple, de Poitiers, qui est très, très pertinent sur les aspects santé. Ben, on vient de parler sédentarité, il connaît aussi bien ça, ce genre de personnes. Après, sur le potentiel humain, ouais, pas sur la santé, plutôt sur le potentiel humain. Bon, comme ça, j'ai rien qui me vient par Laurent, mais il y en a plein, des gens qui sont tout à fait pertinents sur les notions de performance et d'activité physique dans le domaine des STAPS, hein, même en France, il y en a pas mal. Je
Ok.
vais réfléchir, je t'enverrai quelques noms par mail.
Ok,
Mais c'est
c'est gentil.
après, je vais citer une personne et bon, pas tout le temps ce que j'ai fait, mais c'est son nom qui m'est venu en tête, mais après tu veux dire, ouais, bah, tu as cité telle personne et pourquoi pas moi, etc. C'est un peu, tu vois, je vais me mettre du mandado si tu me demandes de faire ça.
Mais non, mais non, mais non. Bon, mais ok, tu m'enverras quelques suggestions par mail si tu y penses. Si on a envie de creuser un petit peu ton travail autour de la physiologie de l'exercice et plus spécifiquement de la pratique de l'ultra trail, tu as écrit un livre qui s'appelle Ultra Trail, d'ailleurs.
Ouais, Ultra Trail, plaisir, performance et santé. Donc j'ai fait la deuxième édition qui est sortie l'an dernier. C'est encore assez récent. Voilà, donc on trouve encore, hein, il n'est pas épuisé. On trouve encore soit sur le site de l'éditeur Outdoor Edition, soit en magasin, en librairie. Et sinon j'ai un site internet aussi perso où j'ai pas mal de tous les podcasts comme celui qu'on vient de faire ensemble ou des articles que j'ai pu écrire qui sont libres de droit, des articles scientifiques aussi, mais aussi des articles de vulgarisation scientifique qui sont des conférences que j'ai pu donner, voilà, des vidéos. Donc il y a pas mal de choses quand même en termes de médiation scientifique sur ce site. Donc le site il s'appelle Kinésiologie, donc évidemment les jeux de mots avec kinésiologie, mais Guy comme Guillaume, GUI.com.
Ok, super. Bah, je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié pour acheter le livre vers ton site perso. Peut-être aussi le webinaire que tu as cité tout à l'heure. S'il y a une retransmission, tu m'enverras le lien
Ouais,
et
il faut être
j'ajouterai.
abonné, mais je crois qu'on peut se faire un compte, faut que je vérifie ça. Mais en tout cas, c'est typiquement les webinars, ça aussi, ça figure sur la page média de mon site. Donc,
Ok, bon bah tout
désolé,
est
pas
on peut te retrouver là-bas.
sur le site, ouais.
Parfait, très bien. Eh bien, écoute, Guillaume, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Maintenant que tu t'es élevé vers le ciel et que tu as commencé à faire fonctionner ton cœur périphérique en bougeant tes mollets sur ton stepper, qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation et quelle est ton énergie maintenant?
Oui, de fait, un peu plus élevé que celle du début. Donc, pas forcément lié au stopper, mais aussi à la conversation qui était assez sympa. Donc, je te remercie pour ça. Donc, voilà, bah, je vais continuer sur ma lancée, puis essayer de finir cette conf pour demain quand même.
Eh bien, écoute, Guillaume, pour ma part, ça a été un plaisir de te rencontrer, un honneur aussi. C'était extrêmement intéressant. J'en ai tiré plusieurs gemmes de sagesse qui vont me servir dans ma propre exploration et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs auront apprécié ce que tu avais à partager. Je souhaite une très belle. Oui, merci. Je te souhaite une très belle journée. Bon courage pour ta conférence. Et puis, bah, je pense que c'est le propre des gens passionnés que d'avoir des vies assez actives, n'est-ce pas?
Sans doute, mais bon, c'est encore une fois, c'est un choix. Hein. Si on le jour où c'est vraiment trop, 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 ben on fera autre chose.
Allez, merci Guillaume. À bientôt.
Je sais pas si j'en serai capable, mais en tout cas, c'est comme ça. À bientôt, au revoir.
À bientôt. Tu connais l'effet papillon? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs.
Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
Is there anything more satisfying than finding something that perfectly lines up with your taste and checks all the boxes? Like getting the perfect fit with a suit from Indochino. Their suits are made to measure and totally customizable with endless options. From timeless classics to bold statements, you can express your style exactly how you want. Choose your own cut, fabric, lining, buttons, lapels, and more to create the suit of your dreams, all at a surprisingly affordable price. They also offer fully customizable blazers, pants, outerwear, women's wear, and more. Every Indochino piece is made to your exact measurements, and they make getting measured easy. Simply set up your measurement profile in less than 10 minutes. You can send your measurements online from the comfort of your home or make an appointment at one of our showrooms. Find the perfect fit with Indochino. Go to Indochino.com and use code PODCAST to get 10% off any purchase of $399 or more. That's 10% off with code PODCAST.